Chers auditeurs, tandis que se déroulaient les événements pénibles que nous avons relatés la dernière fois, c'est-à-dire l'expulsion des religieux, au milieu de l'effervescence qu'ils entretenaient parmi les fidèles et surtout parmi les prêtres, Monseigneur Ducellier continuait sa mission de pasteur du troupeau fidèle. Rien n'échappait à sa vigilance et à son activité. Le préfet avait vu juste quand il le présentait comme un bon administrateur. Il le fut en effet et de façon remarquable. Le régime des séminaires et leur entretien furent grandement améliorés par ses soins. Il s'intéressait de près aux membres de son clergé, à leurs travaux apostoliques, cherchant à les aider sur le plan spirituel par l'organisation régulière de retraites, et sur le plan intellectuel, grâce aux conférences ecclésiastiques dont il régrait personnellement les programmes. Les visites pastorales étaient l'occasion de fêtes populaires qu'il savait apprécier comme autant de manifestations de la foi et de l'attachement de ses diocésains. À l'époque des expulsions, il se trouvait dans les cantons de Baïgorry et d'Ioldi au Pays Basque. Il faut également souligner son attachement au siège de Pierre. Nous avons dit combien, devant les événements politico-religieux de France, son attitude restait reflétée celle du pape. Il faisait parvenir à ses prêtres un exemplaire des encycliques de Léon XIII, accompagné parfois d'une note invitant à prêter une oreille attentive à ces belles pages. Il ne manquait pas de publier pour son diocèse les jubilés ou indulgences plénières que le pape accordait à l'Église universelle. Il avait le dessein de faire le pèlerinage de Rome pour le jubilé sacerdotal de Léon XIII et de lui offrir un magnifique calice spécialement conçu pour lui. Il devra laisser à son successeur le soin de réaliser ce projet. Après avoir refusé, dit-on, l'archevêché d'Auch, il dut accepter celui de Besançon. Il fut préconisé au consistoire du 26 mai 1887 et le 19 juillet suivant, il adressait une lettre pastorale d'adieu à ses diocésains de Bayonne. Il ne devait pas diriger longtemps son nouveau diocèse, car le Seigneur le rappelait à lui le 29 juin 1893. À sa mort, l'hebdomadaire basque Euskalduna lui consacrait un éditorial où l'on pouvait lire à propos de son ministère à Bayonne. Il sauvegardait toujours avec soin son autorité. Et même s'il faisait tout son possible pour vivre en paix avec les chefs du gouvernement, il savait parfois se montrer et tenir tête à l'adversaire. Cependant, il s'est tu, plus souvent qu'il n'a parlé. C'est en silence qu'il a avalé le plus souvent les attaques innommables qui sont faites aujourd'hui à notre religion. Pourtant, il y aurait eu matière à parler. Il y en avait suffisamment pour se mettre à crier tous les jours en voyant la perversité des hommes d'aujourd'hui. Plus que tout autre, l'évêque qui vient de mourir a fait ici comme là-bas tout son possible en voulant, grâce à la douceur, à la prudence et en toute bonne foi, vivre en paix avec les gouvernants, mais en vain comme il a pu s'en rendre compte. Hélas, ni l'agressivité habituelle de l'éditorialiste de l'Euskalduna, ni celle des curés du Pays Basque n'ont obtenu un meilleur résultat. Cela leur vaudra d'ailleurs quelques difficultés avec le second successeur de Monseigneur Ducellier. Le gouvernement choisit l'évêque de Digne, Monseigneur Alfred François Fleuriotot, pour succéder à Monseigneur Ducellier. Il fut préconisé par le pape au consistoire du 26 mai 1887. Monseigneur Fleuriotot était né à Saint-Germain-en-Laye le 28 octobre 1831. Il était vicaire à la cathédrale de Versailles quand éclata la guerre de 1870. Il fit preuve d'un grand courage au cours des douloureux événements qui marquèrent la fin de ce conflit. Après avoir été curé doyen de Sèvres, il fut nommé vicaire général du diocèse et c'est de là qu'il fut appelé à l'évêché de Digne le 13 janvier 1885. Il reçut la consécration épiscopale le 26 mai 1885 dans la cathédrale de Digne des mains de Mgr Forcade, archevêque d'Aix, et 2 ans après, il était transféré à Bayonne. Le 9 août 1887, les vicaires généraux Inchospé et Lasserre annonçaient au clergé que Mgr Fleury-Otto avait pris possession de son évêché de Bayonne par procuration le 1er août précédent et que sa rentrée solennelle à Bayonne se ferait le 8 septembre, son arrivée étant prévue à la gare vers 11h30 du matin. Elle donna lieu à une fête populaire dont les Bayonnais avaient le secret. Dès le 2 juillet, avant son arrivée, Mgr Fleury-Otto avait adressé une lettre pastorale à ses diocésains à l'occasion de la prise de possession de son siège et de son entrée dans le diocèse. Il y exprimait sa joie et sa fierté d'avoir été choisi pour être le père de ce peuple qui habitait son nouveau diocèse. Nous nous réjouissons à la pensée d'être en contact quotidien avec cette race basquaise si belle, si forte, si vaillante et si immuable dans sa foi, avec ce Béarn renommé pour son urbanité, par sa distinction, la finesse et l'activité de ses laborieuses populations, avec cette Gascogne dont on admire à juste titre l'esprit brillant et la belle humeur que rien ne saurait troubler. Il faut croire que le nouvel évêque de Bayonne s'était bien documenté sur les populations qu'il aurait désormais à évangéliser. On peut penser également qu'il avait été mis au courant des prises de position de son clergé dans le contexte politique agité de son temps, et il devinait les questions qu'on pouvait se poser à son sujet. Un peu comme dans la Bible, selon sa propre référence d'ailleurs, les habitants de Bethléem interrogeaient Samuel sur ses intentions en le voyant arriver à la recherche d'un roi. Mgr Fleury-Otto répondait lui-même au risque de décevoir ceux qui attendaient de lui l'approbation de leurs propres options. « Eh bien, nous vous répondrons en toute loyauté, comme Samuel à ses interlocuteurs, que nos intentions sont pacifiques, puisque nous venons au nom de celui qui a pris possession des âmes par la douceur et la bonté, notre Seigneur Jésus-Christ. » Et Mgr Fleury-Otto poursuivait par des soins de paix. Aussi, notre parole de bienvenue sera celle qu'il employait pour saluer les siens. Pax vobis. Oui, ce souhait du divin maître dont le monde ne connaît pas la valeur est bien le nôtre. Que la paix soit avec vous. Cette paix, il l'a souhaitée à chacun, avec Dieu, avec sa conscience, dans les foyers. Paix entre les différentes institutions et administrations de la ville et du diocèse, de manière à ne faire qu'une seule famille dont Jésus-Christ soit le chef suprême. Nous verrons la prochaine fois la suite de l'épiscopat de Mgr Fleury-Otto et le début de celle de Mgr Geoffrey.